Le Space Cast
avec JF Blais et Louis Gauvin.
Radio X.
Vous êtes à l'écoute de Radio X. Le Spacecast vous accompagne jusqu'à 22h. Je m'appelle Jean-Francis Blais, face à moi, Violent Lou, Louis Gauvin.
Oui, monsieur. C'est moi.
À compter de 22h, le chum Max Lacasse qui, bien évidemment, comme à l'habitude, va ouvrir les lignes et prendre vos appels. Si vous avez manqué l'appel incroyable de Rick hier...
Quel auditeur!
C'est coltaillé. J'adore cet auditeur qui est comme clairvoyant, qui s'est pogné avec Harold Arnold hier.
C'est très, très hot.
Ouais, c'est des beaux moments, ça.
Ça, on fait bien les choses.
On va vous le rejouer d'ici 22h, assurément. Hey, je suis très content d'aller jaser avec notre prochaine invitée, qui est une fille avec qui j'adore discuter, j'aime suivre sa carrière, puis à chaque fois qu'elle se bat... On dirait qu'il y a une partie de moi qui est dans le ring aussi, tellement qu'on est comme attaché. Puis la veille du combat, toi puis moi, on s'écrit. Puis même le soir même, hey, c'est là, manque-les pas. Puis on est comme super émotivement impliqués dans ces combats.
Beaucoup trop.
Beaucoup trop, oui, c'est ça. Alors que moi, je ne l'ai jamais rencontré en personne. T'sais. Fait que c'est un peu étrange que je sois autant impliqué émotivement que ça. Mais quand j'ai vu qu'elle allait avoir une nouvelle shot pour un championnat le 11 juin prochain, au Capitole, j'ai fait « yeah » et j'ai fait « what the fuck » au Capitole de la boxe.
Après ça, t'as fait « yeah » et c'est un jeudi, on est en onde.
Ben oui, c'est ça. Hey, ça, je suis en train de plus en plus de contempler l'idée. Peut-être que, étant donné qu'on est autant émotivement impliqués pour des raisons qui sont étranges, mais qui sont réelles, peut-être qu'on pourrait se magasiner un genre de congé.
Ah ouais?
Journée-là. Là.
Ah, ben, je vais militer dans ce sens.
On pourrait regarder pour ça. Bref. En tout cas, hey, on va aller rejoindre parce qu'elle est sur, comme je vous mentionne, sur le point d'affronter la Colombienne Paulina Angel le 11 juin prochain au théâtre le Capitole à Québec. On s'en va rejoindre Léla Beaudoin qui est au bout du fil. Salut Léla.
Allô?
Ça va bien?
Ça va super bien, vous?
Yes, ça va très, très bien. Hey, question pour toi. Comment t'as su que le combat allait avoir lieu, que tu allais avoir une autre shot pour un championnat?
Ben en fait, on remonte à début mars. Il y avait Steven Butler, si je ne me trompe pas, qui se battait au Casino de Montréal. Puis j'allais travailler sur le broadcast là, à la télévision sur ce gala-là. Fait que je me suis pointée au gala pour aller regarder aussi mes compatriotes qui boxaient. Puis là, l'avocat de Eye of the Tiger vient me voir, il me dit « Le monsieur représentant de la WBA, l'officiel de la WBA veut vraiment te rencontrer, c'est-tu correct si je te l'amène? » Je suis comme « Mais oui. » Fait que là, me serre la main comme si j'étais une superstar, me dit à quel point ils ont été impressionnés par ma performance en décembre passé dans mon combat sur Netflix, qu'ils ont aimé ma personnalité, comment je me suis présentée et tout ça. Durant la Fight Week, puis c'est que des louanges, puis il me dit qu'il veut mettre un titre sur mon prochain combat, puis tu sais, quand il y a plusieurs titres qui sont disponibles, on pense jamais à ce que ça va être un championnat du monde intérim, tu sais, c'est pas un titre qu'on peut demander, fait que ça reste comme ça, on serre la main, puis tout, puis après ça, finalement, l'avocat, il a demandé quel titre vous aimeriez mettre dessus, puis il a dit, on va mettre un intérim, fait que tu sais, ça, habituellement, c'est des associations, des ceintures qui... Les offres, ces intérims-là, c'est pas quelque chose qu'on peut dire « Hey, moi, je veux me battre pour l'intérim. » Ça arrive pas. Il faut vraiment que l'association l'offre.
Okay.
Parce qu'il y a déjà une championne, qui est Alicia, contre qui je me suis battue en décembre. Mais comme elle planifie monter de catégorie, ben des fois, les associations se préparent à placer le terrain là, pour les prochains qui vont venir après. Fait que c'est ça. Fait que j'étais super contente. Je peux pas être autre chose que contente d'apprendre ça.
Pour que les gens comprennent bien là, le principe de la ceinture intérimaire, c'est justement quand la vraie championne va changer de poids ou prendre sa retraite, tu deviens de facto ou la détentrice de la ceinture intérimaire devient de facto la championne, c'est ça?
Exact. Fait que tu sais, je vais quand même être championne du monde. Advenant le cas que je la gagne, puis c'est ça, quand Alicia va lâcher ses titres pour monter de catégorie, ben moi je vais être upgradée, montée là, à championne régulière.
Hey, je sais que tu t'es battu entre-temps au Casino de Montréal, tu l'as emporté, tout ça, mais je suis curieux de savoir à quel point ta vie a changé après ton combat sur Netflix.
Ça n'a pas changé, honnêtement. Je veux dire, à part moi, intérieurement, me sentir bien d'avoir accompli ça, d'être reconnaissante pour ma vie, de faire des choix qui font en sorte que je m'aligne avec la boxe de plus en plus, de me rendre compte que je suis chanceuse de faire ce que je fais et tout ça, mais j'ai pas, tu sais, je veux dire, il n'y a pas vraiment rien qui a changé. C'est sûr que j'ai plus de visibilité, j'ai plus d'abonnés Instagram, Facebook, par exemple. Mm-hmm. Mais comme tel, mes amis sont encore là, ma famille est encore là, puis j'ai pas. Moi, je change pas en tant qu'individu, ça, c'est sûr.
Après le combat, y a-tu. Tu sais, parce que t'as donné une performance incroyable de combativité. C'était de la combativité, t'es resté. Tu sais, il y avait absolument rien de gênant, mais quand même, ça s'est soldé avec une défaite. Après le combat, ton mental se portait comment?
Honnêtement, bien. J'ai tout laissé sur le ring. J'ai vraiment tout donné. J'avais plus un once d'énergie dans mon corps. Fait que, tu sais, considérant la situation dans laquelle j'étais, l'état physique dans laquelle j'étais, dans laquelle j'ai fait le combat et tout ça, il n'y a rien que j'aurais pu faire de mieux que ce que j'ai fait là.
Je me trompe-tu ou tu étais comme sur un début de rhume ou un fin de rhume, pas
le
fond?
J'ai eu la grippe un mois avant, puis j'ai jamais revenu, j'ai jamais récupéré à 100%. Je sais pas te donner d'excuses ou quoi que ce soit, mais c'est tout le reste du training camp. Mon corps, même physiquement, visuellement, tu me regardais, puis j'avais pas l'air autant en shape qu'au début du camp. Fait que c'est toutes des choses qui pointaient vers ça. J'essayais de mettre ça de côté, mais tu sais, j'étais pas autant sharp, j'étais pas autant précise dans mes sparring. Je trouvais les rondes longues avant que le combat soit reporté, avant que je tombe malade. Les rondes, je les faisais, puis tout allait extrêmement bien. Et tu sais, je sais que j'étais pas à mon 100%, mais tout ça considérant, je suis contente de ce que j'ai fait parce que j'ai tout donné, ce que je pouvais donner à ce moment-là, puis je suis contente de l'avoir fait. Puis tu sais, j'ai tellement eu une belle réponse du public québécois, justement. Les gens ont tellement été gentils, ont tellement été fins puis fiers. C'est une des choses qui me faisait peur, mais au contraire, j'ai peut-être eu... Je peux même pas savoir combien j'ai eu de messages négatifs. J'en ai tellement eu de positifs, des gens qui m'ont... Ça m'a vraiment levé, puis ça l'a fait du bien. Mais tu sais, je me suis pas sentie triste après. J'étais juste fière. Puis j'ai pris mon père dans mes bras. Ou mon père m'a pris dans ses bras après mon combat dans le locker room. J'avais demandé à ce qu'on aille le chercher dans la foule. Puis okay. J'ai pleuré pendant un bon 5 minutes dans ses bras. Lui aussi, il pleurait. Mais tu sais, c'était vraiment de la fierté de... Crime, c'est gros ce que je viens d'accomplir. Je viens d'une petite place, Témiscouata, tu sais, puis j'étais sur Netflix devant 15 millions de personnes.
C'est fou, hein?
Juste débile. Dans une arène pleine, tu sais, puis j'étais juste vraiment fière. Puis mon père,
pense,
fan de la boxe.
Je pense à ton père, Leila, qui, moi, comme père, justement, de deux petites filles, tu sais, je dis souvent que la beauté de la paternité puis du fait d'avoir des enfants, c'est que la vie t'amène à des places que tu n'aurais jamais soupçonnées. Ton père, je peux pas croire qu'il aurait soupçonné qu'un jour sa fille se battrait sur Netflix. Là,
ben non, c'est ça. C'est un fan de boxe pro, puis... Et même quand j'avais 14 ans, il m'avait déjà dit « je te verrais boxer ». J'étais comme « t'es-tu malade? Jamais de la vie ». Puis finalement, éventuellement, quelques années plus tard, j'ai commencé à boxer. Puis tu sais, moi non plus, jamais j'aurais espéré me rendre là. Tu sais, les gens, ils me disent « t'as réalisé ton rêve ». Mais tu sais, c'est même pas un rêve que j'aurais pu avoir dans ma tête parce que j'aurais jamais pensé que ça aurait pu être possible, tu sais, de boxer sur Netflix.
Parlant de fierté, j'imagine que de boxer... D'être le main event / co-main event avec Wilkins Mathieu au Capitole à Québec, les deux plus hauts boxeurs de la place qui ensemble vont prendre d'assaut le Capitole. J'imagine que ça aussi, c'est quand même une grande fierté pour toi puis pour Wilkins aussi.
Ouais, ben c'est vraiment cool. Je suis super contente pour Wilkins. Il y a un bon défi en avant de lui, assurément. Puis moi, je suis contente de boxer chez nous, devant les miens. C'est toujours une ambiance qui est le fun. Les gens sont full accueillants. Ça va un peu faire penser comme au Casino de Montréal. C'est les vrais mordus de boxe qui vont dans une soirée comme ça pour regarder les gars-là. Fait que c'est vraiment une ambiance qui est différente que, mettons, dans une grande place comme le Centre Vidéotron. Les gens sont vraiment des fans de boxe. Puis c'est relativement silence durant les combats. Parce que les gens regardent vraiment le combat. Il n'y a personne qui jase vraiment. Les gens, ils sont attentifs. Fait que
j'imagine
c'est vraiment quelque chose qui est intime.
J'imagine que pendant que tu te bats, tu dois être focus à la mort puis tu n'entends pas nécessairement la foule. Mais as-tu une préférence entre une foule qui gueule en malade ou une foule qui est très attentive?
Ben, tu sais, l'un n'empêche pas l'autre. Là. Quand les gens sont attentifs, ils vont gueuler au bon moment. C'est plus ça. Mm-hmm. Même dans le stade du Heat de Miami à Miami, justement, c'était, il y avait des moments où c'était relativement silencieux, mais honnêtement, j'ai pas de préférence, je fais pas vraiment fi de ça, j'écoute mon coach, puis c'est la seule voix que j'entends, honnêtement.
Okay. Ça joue-tu dans la tête, des fois, la réaction de la foule? Mettons, tu manges un bon coup de poing, puis t'entends toute la foule qui fait « Oh! » Ça joue-tu dans la tête, ou des fois, il te fait pas mal? OK, non?
J'entends pas ça. J'essaie de me remettre dans la peau quand je me suis battue contre Alicia, ben j'en ai mangé plus qu'un. J'entendais pas, honnêtement. Vraiment pas. Puis même moi, à la fin, quand j'ai fini fort dans les trois derniers rounds, puis que je l'ai bardassé, ben j'ai pas non plus entendu la foule. C'est en écoutant le combat après que j'ai réalisé comme crime, la foule était derrière moi. j'entends pas vraiment ça, en fait, dans les combats. Mais si les gens se lèvent, c'est plus au début du combat, quand on arrive, quand on est présenté et que les gens nous applaudissent, c'est plus là qu'on le vit. Mais un coup qu'on est dans le combat, on est focus à 100%, en tout cas moi, pour ma part.
Est-ce qu'après un combat, parce que tu me dis que tu en as mangé une coupe et tu en as donné une coupe aussi, mais après un combat, est-ce que vous vous faites checker pour tout ce qui est commotion cérébrale? Ou
Oui, on se fait checker. On a tout le temps, la première chose qu'on fait en quittant le ring, c'est d'aller voir les médecins, regarder nos signes neurologiques pour être sûr qu'il n'y a rien. Puis ils nous avertissent de dire si jamais on a des symptômes qui se développent. Puis notre équipe, elle reste toujours avec nous autres un bon laps de temps. Puis, tu sais, si on a eu des coups de plus, ben justement, mettons, si mon chum n'avait pas été là à Miami, ben je suis pas mal assurée qu'il y aurait quelqu'un qui aurait dormi avec moi juste pour être sûr que j'étais correct.
Ah ouais, OK.
Ben dans le cas où on mange plusieurs coups, puis tu sais, qu'il y a eu une chute au tapis, on sait jamais, là. Fait que je sais pas, tu sais, je dis ça, mais peut-être pas non plus, mais je me sens, moi, en tant qu'infirmière, ben ça serait quelque chose que j'aurais demandé.
Est-ce que t'as un nombre de commotions cérébrales diagnostiquées à ton actif?
Non, les commotions cérébrales que j'ai faites, c'était en ski, quand je faisais du ski alpin, quand j'étais plus jeune.
Ah, OK. Fait qu'aucune en boxe?
Non.
Ah, OK. Tant mieux. Est-ce quelque chose que tu crains comme plus tard d'avoir des mauvaises surprises en lien avec les commotions?
Non.
Non?
Je vis au jour le jour, puis tu sais, je suis une fille qui est intelligente. Je pense que je vais savoir me retirer quand ça va être assez. Puis si moi, je suis pas capable de le faire, ben je vais avoir confiance en mon équipe. Puis mon équipe, je sais qu'ils vont me le dire quand ça va être le temps d'arrêter. Puis tu sais, je suis pas une boxeuse qui va à la guerre, je suis pas une fille qui brawl, j'ai quand même une bonne défensive, je boxe de l'extérieur plus, fait que ça fait des carrières qui sont plus longues comparé à d'autres boxeurs qui vont mélanger puis manger beaucoup de coups dans un combat. Donc c'est dans ma carrière, mis à part un combat avec Alicia, c'était justement un combat qui était le double du temps de ce qu'on fait dans un combat de 10 rondes de 2 minutes, là c'était 12 rondes de 3 minutes. Là, oui, j'ai mangé plus de coups, naturellement, mais sinon, dans un combat, mon combat que j'ai fait il y a 2 semaines et demie, je peux même pas, je pense que j'ai mangé 2 coups, 3 coups, gros maximum, j'avais rien dans le visage. Fait que, tu sais, ça dépend d'un combat en combat, mais j'ai pas reçu beaucoup de coups, mettons. Hein.
Non, c'est sûr que face à Bustos, ça a très, très bien été. Ça, c'est pour ça que je te posais la question tantôt, ton état d'esprit après Baumgartner. Je me demandais à quel point ta confiance était à refaire. Puis quand j'ai vu le résultat face à Bustos, ben, j'ai compris que rien n'était à refaire. Tout était bien correct.
Non, honnêtement, même si j'ai perdu, ben, ce combat-là m'a juste donné confiance dans le sens que je me sens comme si je pouvais accomplir n'importe quoi maintenant que j'ai fait ce 12 rondes de 3 minutes-là qui était interminable contre la meilleure boxeuse au monde. Tu sais, je veux dire,
il n'y a plus rien qui fait peur.
Je peux pas être. Non, exactement. Je me sens plus inarrêtable que d'autres choses. Je sais que maintenant, je peux accomplir n'importe quoi. Puis 10 rondes de 2 minutes, c'est vraiment pas long. Puis même si j'arrive moins en chaîne par un entraînement ou que je me sens plus fatiguée, ben crime, c'est toujours bien 1-2 minutes. Fait que même mon mental, ça l'a aidé à ce niveau-là.
Qu'est-ce que tu sais de Paulina Angel à l'heure actuelle?
C'est une fille qui met de la pression, qui aime se lancer en même temps que nous, on lance. Fait que ça va être important de justement d'utiliser les angles pour sortir de sa ligne de frappe. Ça va être de lancer des combinaisons courtes, de sortir, de revenir avec une deuxième attaque pour la surprendre, d'avoir un bon jab, d'imposer mon rythme à moi et de ne pas la laisser imposer son rythme à elle. Puis, ben, si c'est une fille qui fonce, ben, de la faire tomber dans mes coups à moi. puis d'y poser des pièges, puis peut-être qu'elle ira au plancher, qui sait.
Oui, c'est-tu ça ton objectif? Avec une... Parce qu'elle, récemment, en a envoyé une au plancher. C'est-tu un de tes objectifs, justement, de faire l'arroseur arrosé à quelqu'un qui, justement, est habitué de jouer ce game-là, de provoquer des knock-outs?
Ben elle, c'est pas quelqu'un qui est habitué de provoquer des knock-outs, là. Elle a comme envoyé la fille sur les fesses en début de combat, mais tu sais, je pense pas qu'elle soit réputée pour être une cogneuse. Mais non, c'est jamais l'objectif, en tout cas pour ma part. Moi, c'est de boxer, de faire mes trucs, puis si le KO vient, ben il viendra. Un peu comme mon combat en juin contre Hélène Mekaled, le KO m'a surpris autant que vous autres. Fait que je veux jamais viser là-dessus. Il va venir s'il y a à venir. Puis quand on force trop les choses, ben c'est là que ça vient pas.
C'est-tu un piège de boxeur, ça, chercher le knock-out? Puis tu sais, le comparatif est peut-être boiteux, mais comme gardien de but au hockey, là, quand tu essaies de faire le gros arrêt spectaculaire, c'est là que tu donnes des cretons, généralement. T'sais, fait que est-ce que c'est un peu le même type de piège à la boxe, de chercher le knock-out qui arrive jamais, puis à la limite, c'est toi qui t'en fais passer un?
Ben c'est parce que quand tu te mets à swinguer puis à forcer tes coups, tu te crispes. Bien prévisible. Puis, tu sais, si tu forces tous tes coups, bien, ton adversaire s'attend toujours à recevoir des coups puissants. Fait qu'il reste constamment alerte. Tandis que si tu varies ton intensité de coups, tu varies ta vitesse, bien, il sait jamais à quoi s'attendre. Puis, un coup qu'on voit pas venir va faire bien plus mal qu'un coup qu'on voit venir. Fait que dans ce sens-là, quand on varie les intensités, ben c'est plus propice d'avoir un knock-out.
Je sais que tout dépendant là, de l'endroit puis souvent de ce qui a été entendu dans les contrats du gros combat, le ring peut être plus ou moins gros là, en termes de superficie. Toi, tu préfères te battre dans un grand ring ou dans un plus petit ring? Puis à Québec, au casino, au Capitole, j'imagine que ça va être un plus petit ring qu'à l'habitude?
Au Casino de Montréal, c'est toujours des relativement petits rings. Je pourrais pas dire la grosseur exactement. Nous, je sais qu'au gym, on boxe dans un 20 ou un 22. Des fois, ça peut aller jusqu'à 24 ou 26 pieds, me semble. Ils sont vraiment des grands, grands rings. Surtout en Europe, ils sont bien forts là-dessus. En Angleterre, je veux dire. Fait que ça va vraiment se décider souvent soit selon la grosseur de la salle ou selon les contrats dans le au niveau des boxeurs, ce qu'ils demandent. Fait que, tu sais, ma préférence, c'est sûr, un entre-deux, je dirais, j'aime avoir de l'espace pour bouger, mais considérant qu'on boxe souvent au casino, mon coach, il est très intelligent à ce niveau-là, il m'a appris à me donner des angles. Puis se donner des angles, ça veut dire que quand on fait une attaque ou quand la personne nous attaque, nous fonce dessus, ben si je recule en ligne droite constamment, bon, on s'entend, je vais m'en aller dans les câbles. Fait que mon objectif, ça va être de lancer un jab direct, par exemple, lancer une, deux, puis de passer en dessous et d'aller vers son côté, vers son dos, pour constamment garder le centre du ring. Alors que si je fais un jab direct puis je fais juste stepper devant elle, ben moi je vais être rendu près des câbles. Donc c'est ça qu'on essaie d'éviter.
Est-ce que ton entraîneur, tu sais, quand vient le temps de faire du sparring et tout ça, est-ce que ton entraîneur cherche des partenaires de sparring qui vont avoir des styles comparables à l'adversaire que tu vas affronter?
Ben oui. Absolument.
Ah ouais, OK. Et est-ce que déjà là, ton entraînement est amorcé pour Paulina Angel?
Oui, toujours. On garde toujours ça en tête. On fait de la vidéo, on regarde le footage qu'on a d'elle, puis on essaie de regarder les patterns qu'elle fait pour justement tendre les pièges puis se préparer dans ce sens-là.
Le footage, est-ce que c'est fourni par les associations de boxe ou bien tu as le même footage que moi sur YouTube?
Ah ouais, OK. Exact. Okay. C'est nous qui faisons nos recherches.
OK. Une question comme ça aussi, avant un combat, est-ce que, parce que je comprends que tout ce qui est dopage, tout ça, vous n'avez pas le droit, c'est bien normal, mais est-ce que c'est commun dans la boxe, mettons, de prendre un Red Bull, prendre du pré-workout? Y a-t-il des stimulants qui sont permis?
Je pense pas qu'on ait le droit de prendre des stimulants avant les combats. Il me semble qu'on n'a pas le droit au niveau de la régie. Là. Ils ne te laissent pas boire un Red Bull avant, vraiment pas. Tout ce qui est de la caféine, tout ça, ils ne veulent pas.
Ah, ouais, OK. Fait que même un café, tu n'aurais pas le droit, mettons.
Ben oui, là, je veux dire, avant le combat, tout ça, mais c'est qu'un coup que tu as les mains gantées, un coup que tu as les mains
avec
des bandages, puis que, je veux dire, la personne à te surveiller, ben, il me semble que tu n'es plus censé ingérer de rien qui n'est pas.
Tu ne pourrais pas avoir de Red Bull dans la gourde.
Non, vraiment pas. Et oui, tu peux pas ça, là.
Ouais, non, c'est un peu rough, hein, ouais, c'est ça. T'as-tu une habitude ou une superstition d'avant combat? Y a-tu quelque chose, genre, est-ce que tu mets ton taping tout le temps de la même façon? T'as-tu une bébite superstitieuse à toi?
Non, mon coach, il aime bien tout ça, toujours commencer par faire la main droite avant la main gauche, mais ça, c'est lui. Mais moi, non, je suis pas très superstitieuse. Honnêtement, j'ai ma routine d'échauffement que je fais toujours, mais je la fais toujours à l'entraînement aussi, puis c'est juste pour pas me blesser en réalité. Je suis pas quelqu'un qui est superstitieuse, pas du tout.
OK. Est-ce que, tu sais, quand tu étais enrhumé ou en fin de grippe, là, est-ce que tu as le droit de prendre, mettons, tout ce qui est Tylenol, tout ça pour essayer de t'aider, ou même ça, c'est interdit?
Tylenol, on a le droit, Advil aussi. On n'a pas le droit à ce qui est anticongestionnant parce que ça contient de la pseudo-éphédrine là-dedans.
Ah, OK.
Fait qu'on n'a pas le droit jusqu'à un certain seuil, là. Fait que, tu sais, mettons, nous, on ne prend pas de risque d'en prendre une parce qu'on ne voudrait pas que ça pop sur les tests. Là. Fait que, tu sais, on a le droit jusqu'à un certain degré. T'sais, je pourrais en prendre une et ce ne serait pas risqué, mais j'aime mieux pas risquer et j'en prends pas en tout.
OK. Également, tu m'as parlé tantôt que tu étais sur un broadcast. Quand ta carrière prendra fin, est-ce que... Parce que, je me trompe pas, ton frère est dans le domaine des médias, hein?
Oui.
Est-ce que c'est un avenue qui t'intéresse toi aussi, à un moment donné, être une genre de descriptrice de boxe ou analyste de boxe?
Oui, bien, dans le fond, Eye of the Tiger m'ont officiellement amené de façon régulière sur le broadcast parce qu'ils aimeraient ça, justement, que je sois là toujours, sauf dans les soirées où je boxe, évidemment. Fait que oui, c'est quelque chose que j'apprécie vraiment. C'est sûr que je peux pas faire un métier de ça uniquement, mais oui, c'est quelque chose que j'aime.
Est-ce qu'au Capitole, le 11 juin, Jade Masson-Wong va être dans ton coin?
Elle est supposée être à Québec dans ces temps-là. Donc, si elle est là, oui, assurément.
Toi, est-ce que tu vas être dans son coin, dans son combat d'MMA prochainement?
Oui, fait que moi puis Sam, mon coach, ben notre coach, on monte à LA, on s'en va à LA dans 2 semaines pour aller la trouver. Puis c'est ça qui est le fun, c'est qu'elle était avec moi dans mon combat à Miami, elle a vécu tout ça avec MVP, puis là, ben c'est à son tour de le vivre. Puis tu sais, elle nous a appelés les deux ensemble en appel conférence quand elle a eu l'offre pour nous demander notre avis, est-ce qu'elle devrait le faire et tout ça. Puis les deux, on était comme, hey, let's go, faut que tu le fasses, tu sais, t'auras jamais une offre comme ça. Boxer sur la même carte que Ronda Rousey, tu sais, c'est sick, là. Fait que,
ah, c'est fou, ben oui.
On y a dit, tu sais, même si ça fait longtemps que t'as fait du MMA, c'est comme faire du vélo dans notre tête à nous. Fait qu'elle avait suffisamment de temps pour se préparer. Puis on croit vraiment en ses chances. Fait que ça va vraiment être malade d'être là pour elle. Puis je suis contente et reconnaissante qu'elle me fasse confiance, moi aussi, encore, d'être avec elle en son coin.
Est-ce que t'as déjà fait du MMA?
Non, jamais. J'ai fait du jiu-jitsu, mais pas des MMA.
C'est quelque chose qui t'intéresserait à m'emmener? Non, pas en tout.
Non, puis c'est pas payant, j'ai
aimé. Ouais, effectivement. Écoute, quand on parlait avec Jade, elle nous expliquait aussi que, mettons, dans le bare knuckle, là, qui n'est pas du MMA, là, mais parler pour se comprendre, elle nous disait comme un mot couvert qu'elle n'était pas bookée à son goût. Là.
Ben, en fait, elle fait des extrêmement bonnes payes, Jade, là, pour vrai, pour du bare knuckle, mais c'est juste qu'elle ne fait pas assez de combats, elle n'est pas active. Il la garde pas assez active. Fait qu'elle cherchait beaucoup des opportunités. Puis là, ben, elle en a une sur un plateau d'argent. Fait que, tu sais, on sait jamais, peut-être qu'éventuellement, MVP vont se mettre à signer des gens de MMA pour compétitionner contre UFC. Tu sais, là, je sais qu'en ce moment, ils signaient personne. C'est vraiment un gala test, carrément, pour voir si ça va fonctionner. Puis à partir de là, j'imagine qu'ils vont peut-être commencer à explorer ce marché-là. Puis, ben, Jade. Si elle fait une bonne performance, ben peut-être qu'ils voudront la signer.
Mais ce n'est un autre combat, ce qu'on va être émotivement impliqué à distance.
100%. 100%. Ah ouais. Là, c'est sur Jade qu'on focus. Ben, pour le 16 mai, dans le sens, c'est elle qu'on encourage. Puis après ça, ce sera moi.
Exact. Le 11 juin au Capitole de Québec, ma chère. Un gros merci de nous avoir jasé ce soir. Évidemment, tous nos auditeurs et nous en premier, on va être derrière toi pour ce combat-là. On a hâte de voir ça en action.
Bien, merci beaucoup. Bonne soirée.
Salut, toi aussi. Bye-bye. C'était Leila Beaudoin, qui est une fierté de la région de Québec, que vous avez pu voir dans le temps des fêtes, il n'y a pas si longtemps que ça, sur Netflix, se battre devant des millions de personnes. Pas gênant, la performance qu'elle avait livrée, là, au contraire.
De toffer 12 rounds avec la meilleure au monde.
Mais t'imagines-tu, moi, ça m'a marqué. Ça m'a marqué la scène qu'elle nous a contée, avec son père qui vient le rejoindre dans le locker, puis le câlin avec les larmes et tout. T'imagines-tu, même la profondeur. Tu sais, c'est ça, ce genre de moment que et elle et son père vont se souvenir jusque sur leur lit de mort. Là.
Mais c'est sûr.
La profondeur humaine père-fille de ce moment-là, j'en ai des frissons à y penser.
Ah, la fierté. Là.
C'est fou, c'est fou.
Vraiment. Puis une autre chose que j'ai remarqué, puis ça, j'ai remarqué ça au fil de nos entrevues avec les boxeurs de Eye of the Tiger, ils ont toutes une particularité, une ressemblance chez tous ces boxeurs-là. Puis elle l'a mentionné, elle aussi, que l'équipe l'équipe prend soin de leurs boxeurs sur leur santé. Mais tu sais, le cerveau, là, puis la tête des boxeurs, ils la protègent. Tu vois qu'ils font pas n'importe quoi, ils font pas. Il y a des promoteurs de boxe qui vont booker des boxeurs à l'infini, qui vont faire une commotion, qui vont dire non, faut que tu te battes, puis qui vont pousser dans le cul, puis qui vont les compter comme des numéros. Chez Eye of the Tiger, il y a pas un boxeur avec qui on a jasé qui est.
C'est ça, ils sont tous très. Ouais, c'est tout du monde, entre autres.
Des gens qui ont toute leur tête, puis tu vois qu'ils prennent soin, puis qu'ils font attention de garder toute leur tête.
Ouais, vraiment, c'est quelque chose qui retient mon attention. J'aimerais ça jaser à un moment donné, je sais qu'ils écoutent nos affaires, là, les gens de Eye of the Tiger, fait que j'en profite. Là. J'aimerais ça jaser avec quelqu'un qui s'occupe de la logistique, de la gestion des boxeurs. Peut-être même M. Estéphane.
Ouais,
ce serait nice, ça, parce que c'est fascinant aussi la façon que, tu sais, parce que Leila nous a parlé, là, hey, tel gars aimerait te rencontrer, puis il y a beaucoup de. Bonne place au bon moment, job de PR là-dedans.
Certain.
Tu vois que c'est un milieu bien unique en soi, là, parce que c'est pas de même, mettons, dans la Ligue nationale ou
non, peu importe.
Là, c'est comme unique j'allais dire à la boxe, mais peut-être plus au sport de combat.
Il faut que ce soit de la négociation. Y a aussi beaucoup de PR de qui tu es en dehors du ring aussi, ça fait beaucoup. Là.
Ouais, c'est ça.
Ça encore plus, mettons, dans UFC. Là, où
à quel point? Pour tout, là. Je serais curieux de savoir à quel point c'est une situation qui arrive ou pas. Mettons, M. Stéphane ou quelqu'un de son équipe.
Je pense que c'est lui.
C'est lui qui fait tout.
Mais c'est lui le mastermind.
Mais c'est-tu déjà arrivé, mettons, qu'il va voir un kid qui est super bon boxeur, mais qui dit « Hey, t'es plate. Trouve-toi une personnalité pour qu'on beurre un peu épais autour du personnage qu'on essaie de créer. »
Je sais ça arrive-tu, pas, mais c'est ça? Pas son genre.
Non, je le connais pas. Je connais juste de nom.
C'est tous des boxeurs, tu sais. Ben, avec tout le monde qu'on a jasé, c'est tous des gens bien droites qui sont pas là pour le trash talk. T'sais,
c'est vrai.
Ils sont là pour le combat. C'est des gens droites, steady. Et puis, tu sais, peut-être des fois que ça leur aura coûté des combats. Je pense à Canelo contre Mbili. C'est peut-être pour ça que ça y va pas. Canelo, gros showman, Mbili.
Parce que Christian, il est trop...
droite, steady, ouais. À son affaire, pas là pour niaiser, il est là pour péter des gueules.
Puis il est là pour péter des gueules, mais tu me dis, non, lui, il pète pas des gueules, il est PhD, je te crois.
Ouais, c'est ça, c'est le médecin.
C'est ça.
Oui.
C'est ça, c'est le médecin possible. Qui est là dans l'aréna, puis il fait comme, ben oui, ça se peut. Il est shaper en ostifi, le médecin, mais ça se peut.
Il est un bon coach.
Ouais, c'est ça, exact.
Ah, fait que c'est une belle organisation. Puis c'est une des grandes fiertés du Québec qui est. Malheureusement, là, c'est comme nul n'est prophète dans son pays. Là.
Ouais.
Au Québec, on ne réalise pas l'ampleur de Eye of the Tiger à l'international de ce que c'est.
C'est hot, ça. Hein? Puis c'est pas une organisation si vieille que ça. Ça a-tu 20 ans?
Ah, je sais pas. Non, ça doit pas.
Ça me semble pas si vieux que ça parce que, tu sais, avant, il y avait au Québec, je pense, Interbox, il me semble, avec Yvon Michel.
Mais là, Yvon Michel est rendu. Avec,
Ils sont-tu avec eux?
Non, Yvon Michel, c'est une autre affaire.
Il y a eu une rivalité pendant des années. Là, je suivais moins ça. Là. Moi, c'était... Ouais. Je sais qu'Yvon Michel, dans le temps, là, c'était...
Yvon Michel, t'en entends plus parler.
Éric Lucas, puis tout ça. Mais c'est ça, pour vrai, Yvon Michel, on n'entend juste plus parler.
Mais non.
C'est Camille et Stéphane et toute sa gang qui rock la maison.
Ouais. Yvon Michel a Kim Clavel, mais il se l'est fait comme volé par Jake Paul Simili. Là,
OK.
Qui l'a signé, là, puis qui fait la promotion. Là.
Non, il y a comme
ça date de 2008, fait que bientôt 20 ans, man.
C'est malade. Mais il y a comme eu une espèce de... Je sais pas comment ça s'est fait dans les coulisses, là, mais il y a comme eu une espèce de passation du flambeau. Avant, c'était Interbox, maintenant, c'est Eye of the Tiger. Au Québec, là.
C'est très, très hot. C'est une fierté, man.
Yes.
C'est vraiment une fierté.
Yes, all right. Hey, on fait une courte pause. Le Spacecast est avec vous jusqu'à 22h. Vous avez des questions, des commentaires, vous nous écrivez 88-670-9098.
Le Spacecast.
Avec JF Blais et Louis Gauvin.
Radio X.